Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec un autre top 5. J'essaie d'en faire une fois par mois puis c'est une opportunité pour moi de vous parler d'un peu de paranormal et d'inclure toutes les petites histoires paranormales que vous me demandez de parler. Mais aujourd'hui on fait un mélange entre paranormal et théorie de la simulation. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la théorie de la simulation, je vais la mettre dans la barre d'infos. C'est assez important que vous la voyez pour que vous puissiez comprendre ce concept. En fait, rapidement, pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est une théorie dont plusieurs scientifiques ou des philosophes croient. Ils pensent que en fait on vivrait dans une simulation, comme un peu le jeu des Sims. Il y aurait comme quelque chose ou quelqu'un qui nous contrôlerait. Bon, ça c'est une partie de la théorie, mais c'est ça, c'est comme si on vivait dans une simulation, que tout ça c'est pas réel, tout ce qui nous entoure. Bon là j'ai vraiment mal résumé, donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Et aussi si vous voulez regarder ma vidéo sur l'effet Mandela, j'explique un peu c'est quoi et cette vidéo d'aujourd'hui touche un petit peu à l'effet Mandela qui peut aussi rejoindre la théorie de la simulation. Donc c'est un gros mélange de tout ça, vous devez aller voir mes deux vidéos pour bien comprendre. Je vais les mettre dans la barre d'infos et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo.
Écoutez le podcast Over and Out.
L'histoire qui suit, c'est un peu... je pense que c'est une histoire paranormale, mais ça pourrait vraiment entrer dans la théorie de la simulation, fait que c'est pourquoi j'ai décidé de l'inclure ici. C'est une histoire de Reddit, c'est Shani qui l'a écrit. Shani était en voyage avec quelques amis et son mari à Portland, en Oregon. Il y avait Shani, son mari et trois amis qui ont décidé d'aller se promener en forêt et ils ont décidé d'aller visiter une vieille maison abandonnée en plein milieu des bois. C'est assez creepy, mais moi c'est le genre de truc que je ferais, du moins en plein jour. Donc il n'y avait pas vraiment de danger et ils n'ont rien senti de très négatif dans la maison. Oui, c'était creepy, mais t'sais, c'était normal, là, c'est une vieille maison abandonnée. Ils ont décidé de quitter après une heure ou deux à fouiller les lieux parce qu'il y avait plus de 3 km à marcher pour retourner à la voiture. Donc ils ont dit, bon, ils pensent qu'on va y aller avant que le soleil se couche. Sur le chemin du retour, Shani a vu une personne assise sur le sol. Elle a pas pu distinguer si c'était un homme ou une femme, mais la personne portait des vêtements trop grands pour elle. Elle était très sale, elle était assise sur le sol et elle se promenait la tête comme ça et elle pleurait. Shani n'a pas pu voir son visage, mais comme je vous dis, elle a su qu'elle pleurait. Mais étrangement, elle n'a pas ressenti le besoin de s'arrêter et aider cette personne-là. Et Shani le dit, d'habitude, je suis une personne assez empathique, je vais sentir les émotions des autres, je vais aider mon prochain, mais elle a dit, il y avait quelque chose de tellement bizarre à propos de cette personne-là que j'ai senti que je devais pas m'arrêter. Et ben elle et tous ses amis ont regardé la personne, mais personne a voulu s'arrêter pour l'aider. Et tout le monde a comme continué son chemin en silence. Ils ont pas parlé pendant 20 minutes. Il y avait comme une drôle d'atmosphère qui régnait. Finalement, après 20 minutes de silence, ça a marché assez rapidement parce qu'il y avait une certaine crainte dans l'air. Il y a un ami de Shani qui a dit « Ouais, le gars qu'on vient de voir, c'était vraiment bizarre. Il était vraiment étrange. » Un autre ami de Shani a dit « Un gars? Moi, j'ai vu un chien. » De quoi tu parles? Donc, tout ensemble, on fait un consensus. Shani avait vu une personne sans savoir si c'était un homme ou une femme. L'ami de Shani avait vu un gars. Un autre ami avait vu un chien. Un autre ami avait vu que quelqu'un était endormi et le mari de Shani a vu que c'était un homme, mais l'homme ne pleurait pas, il n'était pas endormi, en fait il se moquait du groupe d'amis. Encore aujourd'hui, Shani et ses amis ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Ils ont tous vu quelque chose de différent. Shani a fait un peu de recherche sur cette maison abandonnée et elle a découvert que cette maison était appelée le château de la sorcière. La maison a un passé assez effrayant. En fait, dans les années 1880, il y avait un homme du nom de Denfold Balk qui vivait avec sa famille de 10 personnes. Et dans la maison, il vivait également un homme à tout faire du nom de Mortimer Stump. Éventuellement, l'homme à tout faire, Stump, est tombé amoureux avec l'une des filles de Balk, qui s'appelait Anna, et il a demandé la main de sa fille à Balk. Les deux étaient vraiment amoureux, mais Balk a refusé, donc Stump et Anna ont décidé de s'enfuir pour se marier. Quand le couple est retourné à Portland après s'être enfui, il y a Balk qui a vu Stump et il lui a tiré en plein visage. Stump est mort sur le coup et ça n'a pas été long que Balk a été arrêté. Il a été mis en prison et on l'a exécuté pour le meurtre de Stump. C'est creepy, oui, mais pas tant que ça. Bon, ça arrive, des histoires de meurtre, mais ça a été la première exécution légale en Oregon. Un peu plus tard, la maison est devenue la propriété du gouvernement de Portland et ensuite elle a été abandonnée. Et depuis les années 80, il y a des jeunes qui vont à cette maison pour faire le party. T'sais, c'est connu là, des parties dans des maisons hantées, des maisons abandonnées. Mais on l'appelle le château de la sorcière malgré qu'il n'y a jamais eu vraiment de sorcière dans l'histoire, là, dans le passé de cette maison. Moi, j'ai pensé que peut-être que cette maison a été surnommée le château de la sorcière parce que c'est pas les seuls à avoir vu une figure qui a changé de forme et peut-être justement que c'est une sorcière, donc c'est pourquoi on dit que ça pourrait être paranormal. Mais d'un autre côté, cette histoire, je pense qu'elle entre dans la théorie de la simulation parce que la figure qu'ils ont vue, ça aurait pu être une sorte d'illusion d'optique. Donc, ça a été placé à cet endroit pour une raison particulière et chaque personne qui a vu la figure, ben c'était une figure différente. C'est pourquoi on dit que c'est une théorie de la simulation. Parce que tout est une simulation, donc la figure qu'ils ont vue, ben chaque personne l'a vue d'une manière différente parce que chaque personne vit sa propre simulation. Je sais pas si vous comprenez, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Et maintenant, on va passer au numéro 4. Cette histoire est complètement folle, comme toutes les histoires que je vais vous conter aujourd'hui d'ailleurs, mais je suis persuadée d'avoir vécu la même chose et vous me direz dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de semblable quand vous étiez plus jeune. En fait, je vais vous raconter mon histoire pour ensuite vous raconter cette histoire-là. Donc, quand j'étais petite, en fait, mes parents ont toujours été séparés. Quand j'étais petite, j'habitais dans un bloc appartement, mais c'était plutôt 4 condominiums avec une piscine au centre, là, donc des blocs appartements. J'habitais avec mon père au deuxième étage et il y avait ma grand-mère qui habitait dans un autre bloc à côté. Là, je pouvais y aller, c'était à une minute à pied, même pas. Elle habitait au troisième étage et dans mon bloc à moi, il y avait ma tante, ma marraine qui habitait au quatrième étage et au premier étage, il y avait ma meilleure amie. Donc, j'avais vraiment beaucoup de plaisir quand j'habitais là parce qu'il y avait toute ma famille autour de moi plus ma meilleure amie. Malgré que j'avais 5, 6, 7 ans, je suis sûre, ben en fait, il n'y avait pas de danger. Mon père me laissait aller chez ma grand-mère, chez ma tante, chez ma meilleure amie. Et il n'y avait vraiment aucun danger parce que c'était plutôt des personnes âgées qui habitaient. Et ben j'habitais, tu sais, c'était tout était à côté. Donc ça stressait pas vraiment mon père que j'aille toute seule chez ma meilleure amie. J'avais juste à prendre l'ascenseur et j'étais rendue. Mais quand j'y allais le soir, j'avais quand même peur de prendre l'ascenseur seule ou de marcher dans les corridors seule. Tout simplement parce que c'était le soir. Donc une fois, je soupais chez ma tante. Et il fallait que j'aille chercher de quoi chez ma meilleure amie. Donc, du quatrième au premier étage, j'ai pris l'ascenseur et je suis allée. Normalement, je prenais les escaliers, mais là, comme c'était le soir, en tout cas, j'ai couru de l'appartement, j'ai pris l'ascenseur, je suis descendue au premier étage. Ensuite, je savais porter de quoi mon amie. Ensuite, j'ai couru jusqu'à l'ascenseur. Quatrième étage, j'ai couru pour retourner chez ma tante. Et je suis comme arrivée comme ça, j'ai ouvert la porte, je suis entrée et c'était pas l'appartement de ma tante, c'était une autre famille qui était là. Ils ont comme vraiment fait le saut en me voyant. Moi aussi j'ai fait le saut en les voyant. Mais j'étais comme, ben là tu sais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est plus ma tante qui vit ici? Un peu troublée, j'ai fermé la porte, je suis repartie, j'ai pris l'ascenseur, j'ai encore pesé au quatrième étage. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il me semble que l'ascenseur a pas bougé. Mais bon, les portes se sont rouvertes. Je suis retournée, j'ai cogné, et là, c'est ma tante qui a ouvert. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. C'est une expérience dont j'ai pas vraiment parlé à qui que ce soit parce que je me dis, bon, je me suis peut-être trompée d'étage, c'est possible. Mais là, quand j'ai lu cette histoire sur Reddit qu'à quelqu'un d'autre, il est arrivé la même chose, mais encore plus grave, et là, j'ai dit, ok, c'est peut-être ça qui m'est arrivé. Écoutez bien ça. Donc l'histoire a eu lieu en 2002, c'est Sydney qui est allé à Chicago avec sa famille. Il y avait son frère, sa mère, sa tante et sa grand-mère. Ils ont loué un hôtel pour 5 jours. C'est un hôtel super familial. En fait, il y avait la chambre de Sydney, sa mère, son frère. Et à côté, il y avait la chambre de sa grand-mère. Et il y avait une piscine dans l'hôtel. Et Sydney avait 8 ans. Donc, sa mère n'avait pas de difficulté à la laisser aller toute seule à la piscine. Ensuite, elle allait la rejoindre. Il y avait un sauveteur à la piscine. Et bon, il n'y avait pas de danger à marcher toute seule dans les corridors. Et vous savez qu'est-ce que c'est d'aller à un hôtel à cet âge-là? En fait, tes parents te disent « Oui, tu peux aller chercher la glace. Les glaçons toute seule à la machine à glace. Il n'y a pas de problème. » Et Sydney courait aller chercher des glaçons dans la machine et revenait. Il n'y avait pas de danger. Et de plus, la porte de la chambre de la grand-mère était toujours ouverte. Elle laissait toujours sa porte entrouverte, à part la nuit bien sûr, mais durant le jour, il n'y avait pas de problème. Donc une journée, Sydney venait juste de sortir de la piscine, elle avait les cheveux détrempés, était en maillot de bain, elle a mis sa serviette comme ça, et elle a pris l'ascenseur, elle a appuyé sur le bouton du 7e étage, et comme 20 autres fois dans la semaine, elle s'est rendue à la chambre de sa grand-mère, qui était la 2e porte en sortant de l'ascenseur. Elle y allait en attendant que sa mère vienne les rejoindre. En passant, je veux juste spécifier qu'il y avait juste un ascenseur dans l'hôtel. Bon, elle est sortie, elle a cogné à la porte de sa grand-mère qui n'a pas répondu. Elle a cogné, et elle trouvait ça étrange parce qu'elle savait que sa grand-mère était dans sa chambre. Elle retourne à l'ascenseur, elle regarde et là elle attend que sa mère et son frère arrivent à l'étage. Elle regarde et elle voit que l'ascenseur est comme positionné, il y a les lumières qui indiquent qu'elle est bel et bien au 7e étage. Donc elle sait qu'elle ne s'est pas trompée d'étage. Les portes de l'ascenseur ouvrent, mais il n'y a personne. Là, Sydney commence à être paniquée. Elle sait qu'elle est au bon étage, mais là, elle se demande pourquoi sa grand-mère répond pas, qu'est-ce qui se passe. Là, elle retourne à la chambre, elle va cogner encore. Et là, à ce point-là, elle a froid, elle est encore mouillée de la piscine et elle pleure. Enfin, une personne ouvre la porte de la chambre, c'était une vieille dame qui n'était pas sa grand-mère. La vieille dame lui dit « Ma chère, je te l'ai dit hier, ce n'est pas ta chambre. » Sydney se rappelle pas du tout d'avoir vu cette dame la veille, elle n'a jamais vu cette femme de sa vie. Et là, la dame rajoute « Ça va aller, je suis vraiment désolée, mais je suis au téléphone avec mon fils. Attends encore un peu, ta mère va sûrement bientôt arriver. » Et là, la dame a fermé la porte. Mais on se rappelle, Sydney a 8 ans, une petite fille devant toi qui est en pleurs, elle est en serviette. Et là, tu lui fermes la porte au nez, c'est étrange. Et là, presque au même moment où la vieille dame a fermé la porte, l'ascenseur s'est ouvert à nouveau et là c'était la mère de Sydney qui est arrivée en courant. Elle a pris Sydney dans ses bras en pleurant puis était comme « Sydney, t'étais où? J'étais tellement inquiète. » La mère a comme ouvert la porte de la chambre de la grand-mère avec la clé, mais encore là, c'était pas sa chambre, c'était pas la chambre de la grand-mère. Là, la mère a dit « c'est bizarre, mais tu sais, elle était tellement sous le choc d'avoir perdu sa fille que les deux se sont comme redirigés vers l'ascenseur en mode un peu zombie là parce que ben, ils comprenaient pas ce qui se passait, mais ils étaient juste comme trop contents de s'être revus. Ils ont embarqué dans l'ascenseur à nouveau, ils ont pesé sur le bouton numéro 7, les portes se sont refermées, se sont tout de suite réouvertes. Et là, il y avait la grand-mère de Sydney qui pleurait aussi. Sydney, qui l'a pris dans ses bras, t'étais où? On était si inquiète. Donc apparemment, Sydney avait disparu durant 45 minutes. Mais là, de la façon qu'elle le raconte, elle, ça s'est passé en 5 minutes. Mais non, ça faisait 45 minutes. Qu'elle avait disparu de la piscine jusqu'à sa chambre. La police avait été appelée et l'hôtel est en train de fouiller chaque étage et chaque chambre à la recherche de Sydney. Étrangement, le staff, la famille de Sydney était déjà allée au 7e étage et il n'y avait rien vu, il n'avait pas retrouvé Sydney, mais Sydney raconte qu'elle est au 7e étage depuis le début. Ils ont regardé les vidéos de la caméra de surveillance et c'est vraiment bizarre. On voit Sydney qui rentre dans l'ascenseur, mais on ne la voit pas en ressortir. On a même regardé les caméras de surveillance de chaque étage et on ne voit pas Sydney sur aucun étage alors qu'elle dit qu'elle était au 7e étage tout le long. Et même après 45 minutes, ses cheveux dégouttaient là, de la piscine. Là, il était encore très mouillé, là, qu'il y avait des gouttes. Elle avait froid, elle avait son maillot de bain encore très mouillé. En 45 minutes, ses cheveux auraient le temps d'avoir séché un petit peu. Son maillot de bain ne serait plus mouillé. Donc, personne comprend vraiment qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Sydney se rappelle pas c'était qui cette femme. En fait, personne de sa famille comprend qu'est-ce qui est arrivé. Sydney, elle a dit qu'elle trouvait ça bizarre parce que quand elle a vu la femme, la vieille dame, elle avait les yeux très, très, très bleus. Comme Sydney les a, et il n'y a pas grand monde qui ont les yeux aussi bleus qu'elle. Donc elle a dit, c'était peut-être quelqu'un de ma famille dans une autre vie, mais bon, ça c'est comme une théorie là. Même que les policiers pensaient que Sydney s'était fait kidnapper, et le kidnappeur aurait comme paniqué entre temps et aurait abandonné Sydney derrière lui. Il y a un périmètre de sécurité qui a été monté autour de l'hôtel. Les policiers ont interviewé chaque habitant de l'hôtel à ce moment-là, chaque résident. Et même que Sydney a fait une description de la vieille dame qu'elle a vue, mais il n'y a personne qui correspondait à cette vieille dame en question. 15 ans plus tard, Sydney en ce moment est comme en mode enquête pour trouver qu'est-ce qui s'est passé. Elle se rappelle plus vraiment de l'hôtel, mais finalement j'ai vu dans les commentaires qu'elle a fini par s'en rappeler. Bien sûr, elle a demandé à l'hôtel les enregistrements de la caméra de surveillance de 2002, mais ils ont plus ces enregistrements en question. Donc ça a été vraiment intéressant de voir vraiment que Sydney est entrée dans l'ascenseur, elle n'en est pas ressortie. Donc est-ce qu'elle est entrée dans un monde parallèle, une autre simulation? On se le demande. Si vous avez une théorie de qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, j'aimerais la connaître. J'aimerais savoir aussi si vous avez vécu quelque chose de semblable. De mon côté, c'est possible que j'ai juste appuyé sur le mauvais étage. Il y avait juste 4 étages à l'endroit où je vivais. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais bon, j'aimerais connaître vos théories sur cette histoire.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Cette histoire a eu lieu en 2009 dans la ville de Livermore, en Californie. On a un homme du nom de James Richards qui revenait de la ville Turlock avec son chien. En route, son chien avait envie de faire pipi, donc James s'est arrêté sur le bord de la route pour que son chien fasse ses besoins. À un moment, le chien de James a vu comme un lapin au loin, donc il s'est comme enfui pour aller le poursuivre. Et James a comme essayé de rattraper son chien, mais en courant, il a trébuché sur une branche ou quelque chose et s'est cogné la tête. Quand James s'est réveillé, il y avait comme une grosse machine étrange et il y avait un homme du nom de Jonas qui dit qu'il l'avait retrouvé inconscient. Écoutez bien ça, Jonas dit qu'il avait retrouvé James inconscient durant un voyage interdimensionnel organisé par une agence de voyage qui organise des voyages d'une dimension à une autre. Donc James était comme débarqué malgré lui dans une autre dimension. Et Jonas et lui ont pas mal parlé de leur univers respectif et ils ont commencé un peu à parler de la culture populaire. Ils se sont mis à parler du groupe de musique le plus populaire dans le monde, les Beatles. Dans la dimension de Jonas, tous les membres du groupe des Beatles étaient encore vivants et ils faisaient encore de la musique ensemble. James s'est procuré une cassette étiquetée Everyday Chemistry, qui est de la musique des Beatles actuelle. C'est les chansons des Beatles qui n'existent pas ici, là, mais qui existent dans l'autre univers ou dans l'autre dimension. James a même créé un site internet où il a publié toutes ses chansons des Beatles, chansons inédites là, qui existent dans une autre dimension. Le site s'appelle The Beatles Never Broke Up. Je vais mettre le site dans la barre de description, donc les Beatles se sont jamais séparés. Je vais mettre un extrait de la chanson ici, mais en tout cas, je vais voir parce que ça se peut que je me fasse enlever pour les droits d'auteur, je suis pas sûre, mais comme ça existe pas, cette chanson-là, en tout cas. Sinon, si c'est pas ici en ce moment, là, allez voir le site internet, c'est vraiment fou. Donc, je suis pas vraiment fan des Beatles, je les déteste pas, mais je suis pas une fan finie, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que ça ressemble vraiment à la musique des Beatles. J'ai reconnu des chansons qui sont connues aujourd'hui, mais c'est vraiment un autre style différent. Moi, je me dis que ça aurait été quand même facile de prendre une chanson des Beatles et de l'arranger, mais je connais pas toutes les chansons par cœur, mais selon ce que j'ai lu, c'est des chansons inédites qui n'existent pas. Du moins, il y en a quelques-unes. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire? C'est vraiment, vraiment flyé, mais je voulais l'inclure. Et genre, pourquoi pas? Moi, je crois vraiment aux univers parallèles. Je sais pas si on peut y accéder en se cognant la tête. Mais ça, c'est vraiment possible que dans une autre vie, un autre univers, une autre dimension, les Beatles soient toujours ensemble et ils font encore de la musique et ils sont toujours bien vivants. Et là, on passe à la deuxième histoire. Cette histoire a eu lieu dans les années 80. Elle a vraiment été étudiée dans le monde scientifique, le monde de la médecine, donc on est sûr que c'est une histoire vraie. Ça a eu lieu en hiver 1984, plus précisément en Angleterre, où une mère au foyer était tranquille chez elle en train de lire un livre. Je veux préciser que cette femme allait super bien, elle n'a pas d'historique de maladie mentale, elle est en bonne santé, et il n'y a rien au niveau de sa santé qui cloche. En train de lire, tout à coup, sans prévenir, elle a entendu une voix dans sa tête. Je vais vous lire qu'est-ce que ça le dit. « S'il te plaît, n'aie pas peur. Je sais que ça peut être choquant pour toi de m'entendre parler comme ça, mais c'était la façon la plus facile pour moi de te contacter. Mon ami et moi, on travaillait ensemble à l'hôpital pour enfants et on veut t'aider. » La femme est restée choquée. Elle n'a jamais entendu de voix dans sa tête, premièrement. Et aussi, elle avait déjà entendu parler de l'hôpital pour enfants, mais elle ne savait pas comment s'y rendre. Elle n'y était jamais allée. Et là, les voix sont intervenues une deuxième fois. Pour te montrer que nous sommes sincères, on aimerait vérifier les informations suivantes. Là, les voix lui ont donné comme des informations que la dame devait vérifier. J'ai pas ces informations en question. Elle pensait vraiment qu'elle était en train de virer folle. La femme s'est rendue chez un docteur qui l'a référé à un psychiatre. Mais là, je résume parce que c'est un article scientifique, en fait, écrit par ce psychiatre en question. C'est un petit peu plus long, là, je fais un résumé. Le psychiatre a jugé que la patiente était en bon état de santé mentale, elle n'était pas en psychose, elle n'était pas dangereuse ni pour elle-même ni pour autrui. Donc, il n'y a pas vraiment eu de problème et les voix avaient cessé. Donc, il a dit, regarde, on ne stresse pas avec ça. Et la patiente est allée en vacances avec sa famille. Mais là, pendant qu'elle était en voyage, les voix sont revenues. Mais là, je vous raconte ça comme si ça avait eu lieu toute la même journée, mais ça a eu lieu sur une échelle de plusieurs mois. Les voix lui ont dit de retourner immédiatement en Angleterre parce qu'elle avait besoin de se faire examiner. Elle est retournée à Londres et les voix lui ont donné une adresse en particulier. C'est son mari qui a conduit, mais les deux ne savaient pas où ils s'en allaient, ils ne connaissaient pas cette adresse. Ils se sont rendus à l'endroit dicté par les voix. L'adresse était un hôpital de Londres. Et les voix lui ont demandé de passer un scan au cerveau. La patiente, un peu en détresse et un peu troublée que sa tête lui parle, elle s'est présentée à la réception et elle a demandé un scan au cerveau. Évidemment, ils lui ont refusé, ça prend une prescription. Elle a demandé à son psychiatre, qui lui au départ ne voulait pas, mais là la patiente était si inquiète qu'elle dit « Ok, je vais lui donner un scan au cerveau pour la calmer ». Ça a été assez compliqué, là. Encore là, je vous parle de quelques semaines, quelques mois, parce que tu peux pas juste demander un scan au cerveau sans raison particulière. Mais finalement, il a réussi à avoir une prescription ou une autorisation et la patiente a passé son scan en avril. Et finalement, sur le scan, on a vu que la patiente avait une tumeur au cerveau. La patiente a été opérée en mai 1984. On lui a enlevé la tumeur sans problème, sans complication. Elle n'a pas réentendu les voix, seulement un mois après son opération, elle a entendu les voix une dernière fois. Elle disait qu'elles étaient bien contentes que la patiente ait eu sa chirurgie et que tout s'était bien passé et qu'elle était hors de danger maintenant. Après ça, la femme n'a plus jamais réentendu de voix de sa vie et elle a vécu une longue vie. J'ai inclus cette histoire dans mon top 5. Je sais que ça pourrait être paranormal, ça pourrait être des esprits qui lui parlent. Mais non, elle l'entendait vraiment dans sa tête. Moi, je pense que peut-être que la tumeur touchait une région de son cerveau et ça l'a affecté comme son bon sens, ou je sais pas. Et à cause justement de la tumeur, elle entendait des voix dans sa tête. Mais encore aujourd'hui, même dans l'article scientifique, le psychiatre dit qu'il est pas capable de comprendre ou d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment la patiente a pu savoir qu'elle avait une tumeur au cerveau. Ok, peut-être. Admettons que la patiente a inventé ses voix en question, mais quand même, là, comment elle a pu savoir qu'elle avait une tumeur? Il a fallu qu'elle insiste pour obtenir un scan au cerveau. Et bon, elle a senti quelque chose. Et finalement, c'était vrai, elle avait bel et bien une tumeur. Ok, mais si on considère qu'on est dans une simulation, peut-être qu'on est contrôlé par des êtres supérieurs qui contrôlent nos moindres faits et gestes, qui contrôlent cette vidéo en ce moment, qui contrôlent la façon que je suis assis, qui contrôlent ma famille, mes chiens. C'est possible. Et peut-être qu'on est comme des Sims, justement, et que les gens qui contrôlent cette femme en question savaient que son heure n'était pas venue. C'est pourquoi ils ont fait comme une exception à la règle. C'est comme un glitch. Et ils ont dit qu'il faut qu'on lui parle, sinon elle réalisera jamais qu'elle a une tumeur au cerveau. Et comme je vous dis, son heure n'est pas arrivée. Il faut qu'elle passe un scan, il faut qu'elle se fasse enlever cette tumeur parce qu'elle n'était pas due pour mourir à ce moment-là. Ça, c'est une théorie qui me plaît beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, le psychiatre sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Et il a raconté ses histoires à plusieurs collègues, il a donné des conférences et ses collègues disaient « Ouais, mais peut-être qu'elle a senti, tu sais, elle a senti qu'elle avait quelque chose qui clochait chez elle. » Oui, peut-être, mais c'est quand même fou qu'elle ait eu raison. Avant de parler du plus gros glitch, qui est l'histoire la plus folle de ça, c'est une abonnée d'ailleurs qui m'a envoyé cette histoire. On passe maintenant à la vidéo numéro 1. Donc cette histoire, c'est une fille sur YouTube qui explique qu'est-ce qui est arrivé à son amie, mais son amie veut garder l'anonymat, donc on va l'appeler Sophie. Et c'est une fille sur YouTube, elle a pas tellement d'abonnés, là, elle a juste fait une vidéo pour expliquer ça, tu sais, elle filme son ordinateur, là, c'est pas bien fait, mais je veux juste vraiment partager au monde qu'est-ce qui est arrivé à son amie Sophie. Et c'est sur la chaîne Jensploration, je vais mettre le lien dans la barre d'infos si vous voulez regarder la vidéo vous-même au complet, mais en anglais. Bon, c'est pas juste pour ceux qui parlent anglais. Donc, durant ses deux premières années d'université, Sophie étudiait dans une petite école, une petite université juste pour filles qui est située à l'est des États-Unis. Sophie a étudié à cette université pendant 2 ans et ensuite elle a décidé de changer d'université et s'est ramassée dans une université un petit peu plus grosse située dans le Midwest et c'est de cette université qu'elle s'est diplômée. Après s'être graduée, Sophie a eu une réunion avec ses amis de la première université, son université juste de filles. Donc elle est allée, elle a vu ses anciennes amies, prenait un verre et regardait des vieilles photos dans un album photo. Cette histoire a eu lieu quand même il y a quelques années, je sais pas pourquoi ça ressort aujourd'hui, mais bon, c'était au début des années 2000 que Sophie s'est diplômée, donc il y avait encore des photos sur papier dans des albums photos, là. C'est comme ça qu'on fonctionnait à cette époque. Donc Sophie regarde les photos et là elle tombe sur une photo d'elle-même à la graduation de l'université juste pour femmes. C'est vraiment étrange parce que oui, Sophie s'est graduée, mais elle s'est pas graduée de cette université-là. Elle étudiait même plus là. Elle s'est diplômée de l'université du Midwest. Donc pourquoi elle aurait une photo d'elle à la graduation de l'université juste pour filles? Donc Sophie, elle a vraiment eu un choc en voyant cette photo d'elle parce que c'est clairement elle sur la photo. Mais dit, je suis même pas allée à cet événement-là, j'étais pas là. Je suis pas allée à la graduation, je porterais encore moins les vêtements de graduation parce que je me suis pas diplômée de cette université-là. Ça faisait 2 ans qu'elle n'était pas allée à cette université. Et oui, elle s'est reconnue sur la photo, et je sais pas si vous voyez sur la photo, elle a une jupe. En fait, Sophie dit « J'ai jamais eu cette jupe-là chez moi, j'ai pas cette jupe-là, fait que pourquoi je porterais cette jupe-là? » Et elle dit aussi « C'est même pas mon style, jamais j'achèterais un vêtement comme ça. » C'est vraiment bizarre. Donc je me suis dit, en commençant l'histoire, je dis « Ben là, c'est facile d'expliquer ça, peut-être que Sophie, elle a une jumelle, ou un sosie, ou une doppelganger qui étudie à l'université juste pour femmes. » N'est-ce pas? Ça expliquerait tout ça. Sur cette photo, on voit Sophie, sa mère, sa meilleure amie, à son événement de graduation, mais jamais Sophie est allée à cet événement. Elle a montré cette photo à sa mère et à sa meilleure amie, et les deux ont capoté et ont dit « Ben voyons donc, on n'est jamais allé à cet endroit-là, pourquoi il y a une photo de nous? » Là, Sophie se dit « Ouais, ben ça peut pas être moi, parce que de toute façon, à ce moment-là, ou une journée avant, une journée après, elle était à sa propre graduation. » Dans le Midwest, elle a même des photos pour le prouver. Mais là, ça n'est pas tout. Elle a retrouvé une autre photo d'elle à cette graduation bizarre qu'elle n'est jamais allée. C'est cette photo d'elle, regardez ça. Sophie ne comprend pas, elle dit « Je me rappelle jamais, c'est pas moi », elle dit « Oui, c'est moi, mais c'est pas moi », elle dit « Jamais je serais allée à une graduation comme ça, avec les cheveux comme ça, en bataille, sans porter de maquillage », parce que si tu compares à sa propre photo de graduation, ben elle est allée se faire maquiller, elle est allée se faire coiffer avant l'événement, mais elle dit « Jamais je serais allée arranger comme ça ma propre graduation », donc elle dit « C'est moi, mais c'est pas moi, là ». Puis aussi, je sais pas si vous remarquez, mais sur la photo, on dirait qu'elle a pas de main, donc on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe, là. C'est vraiment étrange. personne comprend ce phénomène. Il y en a qui disent que Sophie aurait pu être photoshopée, mais en même temps, elle dit « j'ai jamais eu ces vêtements-là, fait pourquoi j'aurais été photoshopée? » Mais de toute façon, quel est le but que quelqu'un photoshop et ensuite mettre la photo genre discrètement dans l'album photo de son ami, le mettre dans son tiroir et on découvre cette photo 5 ans après, ça n'a aucun sens. Qui ferait ça? Pourquoi? Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Donc on pense que dans un univers parallèle, Sophie serait restée dans cette université-là, elle se serait diplômée de cette école, mais dans un univers parallèle, ben, elle a une personnalité différente, elle ne se maquille pas autant, se coiffe pas autant, donc c'est pour ça qu'elle, c'est elle, mais différente. Aussi, le fait qu'elle n'ait pas de main sur la photo, moi je pense que sa main est peut-être cachée dans sa robe, mais il y en a qui disent peut-être que dans un univers parallèle, t'as perdu ta main. Et c'est pour ça qu'elle est aussi décoiffée ou elle porte peu de maquillage parce que c'est un petit peu plus compliqué de se coiffer avec une main, j'imagine, là, je sais pas. Mais c'est pour ça qu'elle est moins arrangée, peut-être. Et Jen Spination, la fille de la chaîne YouTube, dit que le père de Sophie a toujours travaillé pour l'armée. Et il a jamais vraiment dit qu'est-ce qu'il faisait dans l'armée. C'est comme un métier super étrange. Fait que peut-être qu'ils ont fait des tests, là, des tests secrets du gouvernement dans la zone 51 et... Mais je sais pas, les deux univers se sont mélangés, peu importe. Écoutez, c'est plus un effet Mandela, ça. Peut-être qu'on a fait un switch de dimension et il y a quelques indices qui sont restés, dont cette photo. Mais honnêtement, j'ai aucune explication. J'ai même conté cette histoire à César, que je compte pas toujours mes histoires là, dont je parle, mais même lui, il était comme... Et là, c'est sûr que c'est faux. J'ai dit, ouais, mais c'est quoi le but de raconter cette histoire-là? C'est son ami qui l'a conté, puis tu sais, oui, elle a beaucoup de vues, mais elle a pas tant d'abonnés sur sa chaîne, puis tu sais, elle montre même pas son visage. Le but, c'est pas d'avoir de la popularité en racontant cette histoire. Elle voulait juste, j'imagine, partager cette histoire, justement, pour avoir des réponses à ses questions. Mais dites-moi vos théories, c'est l'histoire la plus fuckée que j'ai entendue, honnêtement. Désolée mon langage, mais je comprends pas. Ça me fascine au plus haut point. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up si vous voulez d'autres top 5 de théories de la simulation, de glitch dans notre univers. Dites-le moi, je vais en faire. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo pour NordVPN. Merci encore une fois de sponsoriser ma vidéo. Et sinon, on se dit, n'oubliez pas de garder de l'œil ouvert. Over and out.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.